Gloire à notre Dieu, on a eu un super bon temps de louange un matin. C'est là qu'on peut prendre conscience quand il dit qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. Plus que dans l'Israël, dans le sens réel, dans le sens propre d'aujourd'hui, c'est l'Église, les croyants, ceux qui sont rachetés, c'est nous autres. Puis quand son peuple se rassemble pour le célébrer puis le louer, il siège au milieu des louanges. C'est pour ça qu'on peut dire, j'ai ressenti une paix, il y avait quelque chose de spécial. Mais ça, c'est la paix de Dieu. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Vous en voulez plus de sa paix? Rentrez encore davantage dans sa présence, puis vous allez puiser dans cette paix-là. Vous allez sortir d'ici rempli de cette paix-là. C'est produit par le Saint-Esprit, ça fait partie du fruit de l'Esprit. Puis merci Seigneur qu'on puisse recevoir cette paix-là, parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut nous la donner. Puis ce que j'aime encore aussi dans l'apport de la louange, puis le temps qu'on a dans la présence du Seigneur, c'est le temps où ce qu'on peut proclamer haut et fort les versets de la parole de Dieu. Moi, je crois que si je sais que je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris ce qui était écrit dans ces versets-là. Puis c'est ces versets-là qu'il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas avoir peur des élevés, puis des proclamés, puis des criés comme des héros de Dieu qui proclament, on est au-devant de notre roi comme un héros, pas héros, un vainqueur. Héros, H-E-R-A-U-X, qui veut dire un proclamateur de la parole de Dieu. Puis Jésus nous encourage dans sa parole de ne pas avoir honte de l'Évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Faut pas gêner de proclamer les versets. C'est pas nos raisonnements qui sauvent, c'est les versets de la parole de Dieu entendus, saisis par la foi, crus, que les gens s'engagent face à ça à recevoir le merveilleux Sauveur Jésus qui a versé son sang, puis là on est renouvelé, transformé, on est né de nouveau, puis une nouvelle vie qui commence à cause de la puissance de Dieu. Y a-t-il un amen à cela? Gloire à Dieu. Oh. Lâchez pas de dire « Amen » parce que ça veut dire « Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi ». C'est ça qu'on croit, c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on veut qu'il s'accomplisse. Amen.
Amen.
Moi, c'est ça ce que je veux. Mais je sais que vous le voulez aussi. On va faire la suite du message de la semaine passée, puis ça va y avoir d'autres suites dans les semaines et les mois à venir. Le message est sur le combat spirituel. Je vous ai parlé la semaine passée qu'il y avait certaines doctrines qui disent que le diable est lié, on est dans la période du mille ans, puis qu'il peut pas avoir aucune action, aucun agissement contre les chrétiens. Et je vous l'ai démontré par la parole de Dieu que c'est faux de croire une telle pensée, que le diable est encore bien présent et très agissant. Puis en expliquant un peu pour comprendre le combat spirituel, j'ai parti un peu du début pour expliquer comment est-ce que Jésus lui-même l'avait vécu, son combat spirituel, comment est-ce que lui, qu'il fallait qu'il vienne d'en haut premièrement pour venir nous racheter, puis nous sortir de l'emprise du diable et de ses démons, par rapport que l'ensemble de l'humanité était tombée sous l'emprise du diable, il fallait que quelqu'un d'ailleurs vienne nous sauver. Jésus, il est venu d'en haut, il est rentré dans ce monde, puis il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est ça qu'on va baser notre foi là-dessus. Pas sur, tout le monde dit qu'on ne peut pas sortir du péché, qu'il faut toujours rester dans une attitude qu'on accepte notre situation, on mange des baffes par l'ennemi, mais on n'a pas le choix, on est dans la vallée de l'ombre de la mort, puis on n'a pas de victoire possible de s'en sortir. Ça, c'est des faux raisonnements. Il faut croire qu'il y a une victoire qui est accomplie par Jésus. Premièrement, parce que l'ennemi n'a pas pu mettre l'emprise sur Jésus. Jésus, il a tombé dans aucun péché. Il était tenté en toute chose sans commettre de péché. Il pouvait affirmer que le diable n'avait rien en lui. Il n'avait pas d'emprise. Puis là, Jésus, on a vu de certaines manières comment est-ce que le diable s'était pris par ruse pour tenter Jésus. Qu'est-ce que Jésus s'est servi pour combattre? C'est sa parole. Puis par la suite, ça nous dit que Jésus avait reçu une onction. Pas juste pour lui-même, pour qu'il marche dans la victoire contre l'ennemi, mais une onction qui pouvait servir à délivrer les autres. Parce que c'était beau qu'il marche sans péché, puis qu'il marche dans la victoire sur l'ennemi, mais il fallait aussi qu'il fasse quelque chose pour nous. Puis c'est ça qu'on avait vu, qu'il avait reçu l'Esprit du Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle, tout ça, mais aussi pour proclamer aux captifs la délivrance, puis renvoyer libres les opprimés. Ça veut dire que le Seigneur, quand il est venu, il a accompli une mission pour sa vie, mais aussi pour les gens qui l'entouraient. Il voulait délivrer tous les hommes de l'emprise du diable. C'était son plan. Puis il est venu comme en vainqueur, puis pour vaincre. Puis il y a une bonne nouvelle ce matin, Jésus est plus que vainqueur. Il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, et ainsi de suite. Puis c'est ce qu'on va voir dans la suite. Puis on va voir quels sont les avantages qui nous sont donnés maintenant à cause de la victoire de Jésus. Puis il faut que les chrétiens réalisent ça. Parce que la puissance est dans l'accomplissement de l'œuvre de Jésus. Et pas dans une religion, et pas parce que vous avez pratiqué la religion chrétienne que vous avez de la puissance, et parce que vous êtes entré en lui et que lui demeure en vous, vous obtenez automatiquement tous les bénéfices que Jésus a acquis à cause de sa victoire. C'est ça qu'on va découvrir. Aussitôt que son ministère à Jésus a commencé, tout de suite Jésus s'est mis à l'œuvre. Pour commencer une œuvre de délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, 38 nous dit, vous savez comment Dieu y a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Depuis le moment que Jésus a commencé son ministère, il a commencé à environ 30 ans, la Bible nous dit, c'est pour ceux qui ne le savaient pas, Jésus n'avait pas nécessairement 30 ans, ça dit qu'il avait environ 30 ans. On ne sait pas quel âge que Jésus avait, comme on ne sait pas l'âge exact que Jésus est mort. C'est toujours des suppositions. Jésus avait environ 30 ans, il a commencé son ministère. Tout de suite, l'onction du Seigneur, une onction du Saint-Esprit qui est venue de la part de Dieu, une onction puissante, parce que c'est pas juste loin du Saint-Esprit, mais loin du Saint-Esprit et de force. Ça prenait une puissance pour libérer les captifs. Jésus était équipé de tout ce que ça prenait pour délivrer les gens. Tout de suite, c'est en allé en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'était ça sa mission. On l'a vu dans un autre verset la semaine passée, il a quitté le ciel, il est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Puis tout de suite, quand il a commencé son ministère, il a commencé à guérir les malades, chasser les démons, il a même ressuscité des personnes mortes. Partout où ce qui passait, tous étaient délivré et guéri. Gloire à Dieu! Même ceux qui ne croyaient pas, parce qu'il y a des gens qui étaient sourds, ils ne pouvaient pas entendre, ils étaient aveugles en même temps, ils ne pouvaient pas voir, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Tous, il y a quelqu'un d'autre qui les présentait, ils n'étaient même pas dans la foi, puis ils ont reçu pareil des délivrances. Puis il y a des gens qui étaient liés des démons, puis ils étaient comme perdus dans leur esprit, complètement aveugles dans leur esprit, ils ne voyaient plus rien. Ils étaient déconnectés de la vie consciente normale terrestre, puis ils se meurtrissaient avec des pierres, puis ils poussaient des cris, puis ils étaient nus, puis ils vivaient dans des cimetières, puis ils étaient enchaînés, puis ils brisaient les chaînes dans leur démence, dans leur possession, puis ils ont reçu des délivrances de la part de Jésus. Pourquoi que Jésus était puissant comme ça? Dans le verset, ça nous dit « car Dieu était avec lui ». Puis ça, on l'oublie, ce petit verset-là, mais il est important de comprendre que la puissance de Jésus, l'Esprit Saint et la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui, c'était agissant parce que Dieu était avec lui. Autrement dit, il n'y a rien qui peut se faire dans ce monde sans que Dieu soit avec toi. D'une autre manière de penser, tu ne pourras pas accomplir quoi que ce soit dans ta vie si Dieu n'est pas avec toi. Il est important de réaliser qu'on doit avoir ce contact-là avec Dieu si on veut avoir la victoire dans le monde spirituel, dans notre vie. Il faut marcher en communion avec Dieu. C'est à cause de ta communion que le Saint-Esprit va venir sur toi et que tu vas obtenir tes guérisons, tes délivrances, puis que les choses vont changer autour de toi. Un chrétien ne peut pas marcher dans la victoire s'il marche dans la chair. Faut que tu marches dans l'Esprit-Saint. Partout où les apôtres ont été par après remplis du Saint-Esprit, puis il s'est passé des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, c'est encore par la puissance du Saint-Esprit qui a été répandu. Si Jésus avait commis un seul péché, Dieu n'aurait pu être avec lui, puis il n'aurait pas pu accomplir sa mission. Il fallait qu'il soit complètement libre. Sinon, son péché l'aurait mis un obstacle à sa communion avec son Père. Il aurait été séparé de son Père. Jésus lui-même aurait eu besoin d'un sauveur. Mais il y a un verset qui nous dit dans Jean que j'ai entendu dans l'auto en m'en venant, parce que j'écoute la Bible en MP3 dans mon char. Il dit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » C'est Jésus qui a déclaré cela. Déjà, Jésus, en venant d'en haut, il pouvait être dans un état de pouvoir être au-dessus de tous. Quand on parle de tous, c'est au-dessus même de tous les humains, de toutes les autorités, de tous les pouvoirs humains et spirituels. Si Jésus n'aurait pas cette position-là, à cause qu'il vient d'en haut, il n'aurait pas pu vaincre l'ennemi. S'il serait venu juste comme en forme charnelle, sans voir ce qui vient d'en haut, il a arrêté sous la domination de l'ennemi, puis il n'aura jamais marché dans la victoire. Mais Jésus est le lion de Juda qui est venu du ciel, puis il est venu vaincre l'ennemi. Tout de suite, Jésus s'est mis à l'attaque. Partout qu'il passait, il voyait une manifestation d'un démon, il prenait autorité, puis il le chassait. Jésus était connu des démons. Son autorité n'était pas contestée. Les démons connaissaient Jésus, puis ne contestaient pas son autorité, parce qu'il demeurait, Dieu était avec lui. Et à cause de ça, les démons s'enfuyaient. Il les chassait automatiquement lorsqu'ils étaient révélés, et ils lui obéissaient. Dans Luc 4, 33... On va aller lire un petit passage qui nous raconte justement une histoire comme ça pour voir la réaction des démons face à Jésus. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer un personnage comme ça, une personne assise dans une synagogue, une personne assise dans les réunions qui parlent de Dieu, dans ce temps-là. Puis ce gars-là avait un esprit de démon impur, mais ça s'était jamais révélé. Il assistait aux réunions dans la synagogue avec les Juifs, puis il participait aux cérémonies, puis peut-être qu'il avait même offert des sacrifices pour le pardon de ses péchés, mais il est encore possédé d'un esprit de démon impur. Mais quand il a vu Jésus dans son onction, c'est suite à ce que Jésus il avait annoncé qu'il était revêtu de la puissance d'en haut, il s'écria d'une voix forte, « Ah! Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sors de cet homme !» Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Wow! Ça, c'est une situation qui devait avoir, me semble, ça aurait été intéressant d'être là, de voir Jésus donner un ordre, puis d'ordonner à ce démon-là de se taire, puis de sortir de cet homme, puis à l'instant même, le démoniaque s'est jeté dans le milieu de l'assemblée, fou, il a sorti de ce gars-là, le gars, il était correct après. Délivré de cette emprise démoniaque-là. Puis c'est drôle, hein, mais le verset nous dit que c'est un esprit de démon impur. Puis quand il a vu Jésus, il connaissait Jésus, puis il connaissait que Jésus était venu pour le perdre, pour le détruire, pour le rejeter, pour le combattre, pour lui commander. Il connaissait Jésus, puis il l'a appelé comment? Le Saint de Dieu. Ce qui est complètement le contraire d'un esprit impur, l'autre c'est le saint. Pourquoi qu'il l'appelait le saint? Parce que ces démons-là connaissaient la vie de Jésus, puis ils connaissaient qu'il n'y avait aucune emprise sur ce Jésus-là. Eux étaient les impurs, puis Jésus était le saint. Puis vu que l'ennemi n'a pas pu lui avoir, mettre le grappin sur Jésus puis essayer d'avoir un accès dans sa vie pour le contrôler, puis le manipuler, puis l'entraîner dans le péché. Il n'y avait aucune puissance sur Jésus, c'est le contraire. Jésus qui est venu d'en haut, il avait l'autorité au-dessus de tous, puis il pouvait commander à ce démon-là, « Sors de là », puis les démons n'ont pas contesté. Ils obéissaient. Ça nous dit... Quelle est cette parole? Il commande avec autorité aux puissances, aux esprits impurs, et ils sortent. Les démons, ils commandent avec autorité et puissance. Jésus avait l'autorité et la puissance. Ça, je vais vous donner ce petit exemple-là pour vous expliquer c'est quoi la différence entre l'autorité et la puissance. Les policiers, aujourd'hui, dans notre société, c'est la force de l'ordre. Ils sont engagés par la société pour exercer l'autorité. L'autorité, c'est les juges, les magistrats, les gouvernements ont établi des lois de quelle façon nous devrions vivre. Puis les policiers sont comme engagés pour faire respecter la loi que les gouvernements puis les juges ont mis en place. Donc, ces gens-là, c'est les forces de l'ordre. Ils reçoivent une autorité et un pouvoir d'arrêter les criminels. Fait qu'un policier, quand il se promène dans la rue, il connaît son rôle, il sait que l'autorité a le pouvoir d'arrêter, puis c'est même son engagement, parce qu'ils font un serment de dire, moi je déclare que je vais défendre la loi, puis tout ça, il y a un serment qu'il fait envers la société, pour s'engager à « j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, c'est mon devoir, c'est que si je vois un crime, d'intervenir et d'arrêter le coupable. » Fait que les policiers, quand ils voient un crime, ils s'en vont devant le criminel, puis ils disent « au nom de la loi, je t'arrête. » Puis là, ils commandent à la personne de se livrer. Là, la personne a fini. Elle lui dit, mets tes mains sur le top de ton char. Puis là, ils ont le droit, ils ont l'autorité d'arrêter cet homme et de le fouiller, et ainsi de suite. Ça, c'est l'autorité. Quand ils commandent, ils ont l'autorité, ils ordonnent, puis les personnages sont supposés, en principe, de s'arrêter. Ils ont l'autorité. Mais c'est quoi qui est la différence entre l'autorité et le pouvoir? C'est qu'une police n'a pas toujours le pouvoir de l'arrêter. Un exemple, si le voleur est plus fort que la police, il va résister à son arrestation. Il peut se battre avec la police, puis il peut même flanquer une volée à la police. Sauf que la police, normalement, ils attendent les renforts pour avoir le pouvoir. 2, 3, 5, 10 polices se jettent sur la personne, puis là, ils matent la personne. Ça, c'est le pouvoir. Tu peux avoir l'autorité et avoir pas nécessairement tout le pouvoir dans un événement. C'est comme si le policier se met dans la rue, il a l'autorité de mettre sa main dans les airs puis d'ordonner un véhicule qui s'en vient, un gros 10 roues, en lui montrant la main, puis il dit « Arrête! » le véhicule doit arrêter. Il a l'autorité de l'arrêter, mais il n'a pas toujours le pouvoir. Si l'autre résiste à son arrestation, le policier peut se faire passer sur le corps. Le policier peut se faire passer sur le corps. Mais quand que les policiers savent que l'autre pourrait résister, ils vont mettre des barrages, ils vont mettre des bulldozers, ils vont mettre tout ce qu'il faut de pouvoir pour arrêter l'autre, pour finalement avoir la force de le maîtriser. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que Jésus a l'autorité et le pouvoir sur les démons. Aucun démon n'est plus fort que Jésus. Aucun démon, même le diable, qui est le chef de tous les démons, n'a pas le pouvoir contre Jésus et ils se soumettent à l'autorité de Jésus. C'est ça qu'on a vu dans le verset. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. La force, c'est le pouvoir, la puissance, la capacité. Quand il commande de quoi, il y a une puissance qui agit, puis les démons n'ont pas le choix d'obtempérer. Il y a un autre passage dans Marc 1, 34 qui nous dit, « Jésus, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. » Jésus avait juste besoin de marcher, ou ce qui marchait dans les rues, là. Puis quand les démons l'apercevaient, il se prosternait devant Jésus. Il tombait en convulsion. La puissance, l'onction qui était sur Jésus, les démons fléchissaient les genoux devant Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie chrétienne de rencontrer des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit et de puissance. Tu t'approches autour de ces gens-là, là, puis ils dégagent la sainteté, ils dégagent l'onction, ils dégagent la puissance. Tu t'approches, puis tu te sens même tout croche des fois. Je ne dis pas que tous les chrétiens doivent se sentir tout croche, mais on peut si tu ne te sens pas en paix avec Dieu, si tu marches dans des ténèbres dans ta vie, puis qu'il y a des parties qui ne sont pas remis au Seigneur, c'est sûr qu'il y a des esprits qui agissent dans votre vie. Puis que quand que vous allez arriver auprès de ces gens-là, vous allez vous sentir tout croche. Tandis que d'un autre côté, quand tu es en paix avec Dieu, puis tu es rempli de la présence de Dieu toi aussi, tu vas sentir l'onction, puis ça ne fait que te bénir. Ça ne fait que te faire du bien. Puis t'es bien dans la présence de ce personnage-là. Mais Jésus était comme ça. Quand il rouvrait la bouche, quand il parlait, les gens se rassemblaient en foule autour de lui pour recevoir ce qui sortait de lui. Vous vous rappelez de la femme qui avait une perte de sang? Jésus a dit, il a senti qu'il y a une force qui avait sorti de lui. Il y a de quoi qui se passait, qui se dégageait de Jésus. C'était le pouvoir du Saint-Esprit qui était dans sa vie. Puis il vivait cette onction-là de puissance parce que Dieu était avec lui, parce qu'il marchait en contact. Les démons ne pouvaient pas résister à ça. Ils venaient tout croche. Ils se prosternaient. Ils tombaient en convulsion. Puis quand Jésus leur commandait de sortir, qu'il y en avait un ou qu'il y en avait une légion, c'est comme si on le prend dans le sens d'une légion romaine, il y a peut-être 2000 démons qui étaient là dans ce personnage-là. Ils ont sorti sous la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Un seul commandement, sors! Il y a une puissance qui agit, puis les démons ne peuvent pas résister, puis il se passe des choses, des délivrances dans la présence de Jésus. Il était connu et non contesté. Puis, bonne nouvelle, on marche avec ce Jésus-là. C'est notre Sauveur. C'est lui qui marche au-devant de nous. C'est lui qui guide nos pas, qui nous conduit dans les combats, puis qui nous donne les victoires. Alléluia. Jésus, quand il se promenait sur la terre, il voyait le royaume des ténèbres agir à travers des gens. Les gens là, qui venaient à Jésus, ils venaient pas toujours dans le but d'entendre la parole. Ils venaient autour pour le tenter, pour lui dire des paroles, pour le mettre à l'épreuve. Ils venaient autour pour s'opposer à ce que Jésus disait. Puis Jésus, quand il voyait ces gens-là s'avancer, il voyait à travers de ces gens-là la puissance des ténèbres qui s'avançait pour venir lui parler. Puis Jésus ne se laissait pas influencer par ça. Il considérait ces gens-là comme étant des suppôts de Satan. Tous ceux qui venaient pour s'opposer à lui, pour le piéger, pour contester son autorité, les démons ne contestaient pas son autorité, mais les humains contestaient son autorité. Jésus voyait ces gens-là comme étant des suppôts de Satan. Le sens de suppôts, là, ceux qui ne savent pas, ça veut dire des serviteurs, des complices d'une personne nuisible. Ces gens-là étaient des complices du royaume des ténèbres. Ils s'avançaient auprès de Jésus, puis Jésus lui disait, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? » Quand Jésus est en train de dire ça, il est en train de parler à la foule qui s'opposait à lui. Il ne parlait pas cette phrase-là du monde qui voulait connaître la parole puis qui voulait recevoir le bien qui sortait de Jésus. Il parlait à ceux qui s'opposaient à son œuvre, à son ministère. Il les traitait de serpents et de races de vipères. Puis il leur disait, la condamnation vous attend, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? Tout ça pour vous dire que si c'était de même il y a 2000 ans, c'est encore comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens dans ce monde qui travaillent pour l'ennemi et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils peuvent venir à vous s'opposant à ce que vous dites quand vous prenez position pour Jésus. Ils vont vous tenter de vous piéger, tenter de vous influencer dans le mal, puis de vous tenter puis vous entraîner. Puis là, si on parle à toutes les choses qu'il y a dans ce monde pour entraîner quelqu'un. Puis c'est des suppôts de Satan pour dans le but de nous piéger. Ça met de la confusion, puis ça met toutes sortes de choses pour essayer de nous détourner du sentier de communion avec notre Père Céleste. Mais Jésus a confessé des vérités que ce ne sera pas pour toujours que l'ennemi sera là pour essayer de venir le tenter. Jésus, déjà, pendant son ministère, il a annoncé sa crucifixion et sa victoire sur l'ennemi. Dans Jean 12, 31, Jésus n'est pas encore mort, mais est en train de nous dire comment est-ce que ça arriverait, la victoire sur l'ennemi. Comment est-ce que l'ennemi va être jeté dehors? Dans Jean 12, 31, maintenant, il parle de c'était le moment présent, il y a 2000 ans, quand Jésus est en train de le dire. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a dit « maintenant », il n'a pas dit « dans 2000 ans ». Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, puis ça va être le jugement de ce monde. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il est en train de dire qu'il était pour être crucifié, qu'il était pour mourir sur la croix. Puis à cause de cette œuvre-là, maintenant, c'était pour amener la condamnation sur le monde impie, sur les gens de ce monde qui résistent à son autorité, à son pouvoir, à sa parole, à la volonté de son Père. Ceux qui résistent, ça pourrait être une condamnation. Et pour ceux, et pour l'ennemi, le prince de ce monde, qui était pour être jeté dehors. Il y en a qui pensent que jeté dehors, que c'était pour être jeté dehors de la vie présente. Pas du tout. Il n'a pas jeté Jésus, il n'a pas jeté le diable dehors de la vie présente. Il a jeté le diable dehors de l'autorité, de son siège d'autorité qu'il avait dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu. Il fallait qu'il soit anéanti, vaincu et jeté en bas du ciel. Quand les disciples sont partis, puis ils sont revenus, les 70, puis ils parlaient à Jésus. « Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus lui dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Chaque fois qu'un disciple prenait autorité dans le nom de Jésus, dans ce temps-là, Satan prenait une débarque du haut du ciel. Il remontait, il pouvait encore se présenter, mais il prenait une débarque spirituellement à chaque fois que quelqu'un prenait autorité. Mais quand Jésus a vaincu sur la croix, il a vaincu l'ennemi. il a été jeté dehors. Il n'y a plus de demeure dans la présence de Dieu. Si vous regardez le passage dans l'Ancien Testament, quand il Job, l'histoire de Job, ça dit que Satan, les fils de Dieu s'étaient présentés devant l'Éternel, puis que Satan était au milieu d'eux. Il pouvait aller et venir comme qu'il voulait, se présenter devant Dieu et pouvoir accuser les gens sur la terre. Je ne dis pas qu'il ne peut plus y aller, mais il a perdu son autorité qu'il avait là. Il peut encore y aller comme accusateur ou comme pour faire des requêtes pour demander de piéger quelqu'un. Mais autant on le sait que Jésus intercède pour nous aussi pour contrecarrer ses plans. Quand Jésus a dit à Pierre, « Simon, Satan te réclamait pour te cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas prié pour que l'ennemi ne l'attaque pas. Il a prié pour qu'il garde la foi dans son épreuve. L'ennemi continue d'agir sur les gens, mais Jésus intercède pour nous. Gloire à Dieu. Jésus a aussi annoncé, dans ce temps-là, il y a 2000 ans, que le lieu du jugement éternel de l'ennemi, du diable et ses démons, que ce lieu-là était déjà créé. Ce que le monde appelle l'enfer, c'est pas écrit dans la Bible, l'enfer. Faut arrêter de prononcer ce mot-là, ça vient du latin, puis quand tu parles de ce mot-là, ça parle du shéol, puis le shéol, c'est le trou dans le cimetière. C'est pas, comme Jésus dit, le lac de feu, ou l'étang de feu, ou l'étang ardent de feu et de soufre, ou la Géhenne, qui était le dépotoir public de Jérusalem, où ce que les poubelles de Jérusalem étaient achetées dans un dépotoir, dans une vallée qui s'appelait la vallée de Guillemon. C'est un dépotoir, ce que le feu brûlait d'un vidange continuellement. Puis, ils prenaient cet exemple-là pour démontrer que dans les lieux invisibles, dans les lieux célestes, il y a un lieu de tourment qui a été créé pour jeter et juger éternellement l'ennemi, le diable et ses démons. Ça s'appelle le lac de feu, l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, on voit ça dans Matthieu 25, 41, que Jésus, un jour, il va dire à certaines personnes qui sont à sa gauche, il va leur dire, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le feu éternel, il a été préparé pour le diable et pour ses anges. Déjà, Jésus annonçait prophétiquement que spirituellement, dans le lieu céleste, il y a un endroit de tourment où ce que l'ennemi va être jeté, puis il va y rester là. Lui, le diable et tous ses démons vont être jugés et jetés là. Mais il n'a pas dit qu'il l'était déjà jeté là. Il dit qu'un jour, ils vont être jetés là. Puis il dit aussi que des humains qui vont être jetés au même endroit qui était le lieu pour juger le diable et ses démons. La Bible décrit ce lieu-là dans différentes façons. J'ai une autre étude à un moment donné, si vous le voulez, si Dieu le permet. J'amènerai une étude pour vous expliquer un peu plus en profondeur ce qu'il y en est de ce lieu de tourment-là. Mais ce qu'il faut se réjouir, c'est que Jésus n'était même pas encore mort, mais Jésus affirmait déjà que l'ennemi n'avait rien sur lui, puis que lui est en train de le combattre, puis de résister à son œuvre, puis détruire l'œuvre du diable, puis chasser les démons, puis libérer les captifs, puis il avait une onction de puissance pour le faire, puis il promettait déjà comme « Faites-vous-en pas, mes enfants ». Le lieu de tourment, il est déjà créé pour le diable, puis il va être anéanti, puis il va être vaincu, puis il va être jeté là pour l'éternité. Puis, il arrivera un jour qu'il sera disparu pour toujours. Dans l'Apocalypse, Jésus nous a donné une vision certaine de la victoire finale sur l'ennemi. Mais seulement à la fin de l'histoire terrestre. Il faut que l'histoire terrestre se finisse avant que l'ennemi soit jeté dans ce lac de feu-là. Ça, on peut aller voir ça dans Apocalypse 20, 10. Ça, c'est une vision du futur. C'est une vision de la victoire finale de Jésus contre le diable et ses démons. Autant que Jésus l'avait annoncé que le lieu de tourment était déjà créé, Jésus a annoncé aussi dans la révélation de l'Apocalypse que le diable qui séduisait les nations, il fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'étang de feu n'est pas un pour 5 minutes. C'est au siècle et des siècles 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 et des cent ans et des cent ans et des cent ans à l'infini. C'est l'éternité complète, une victoire complète sur l'ennemi qui va être jeté dans ce lieu de tourment qui est l'étang de feu et de soufre. Puis ça ne sera pas pour régner sur l'étang de feu comme qu'il y en a dans, qu'on entend aujourd'hui. Oh, le diable règne sur l'enfer, puis moi j'aimerais ça y aller en enfer, je vais avoir plus de belles filles en enfer qu'il y en a au ciel, puis on va pouvoir profiter de tout. Oubliez ça. Le lieu de tourment, l'étang de feu, le lac de feu, le lac de feu et de soufre, c'est un tourment jour et nuit, au siècle des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des sans fin. Si quelqu'un met les pieds là-dedans, il ne sort plus de là. C'est un tourment éternel de complètement sentir la flamme qui le dévore et être complètement tourmenté continuellement, intérieurement, d'avoir résisté contre Dieu, d'avoir refusé. Puis je pense aux humains que la Bible nous parle, que dans ce texte-là, la bête et le faux prophète, Deux personnes représentant l'antéchrist et le faux prophète de la fin des temps qui est en train de s'installer, ils étaient déjà jetés là. C'est les seuls qui ont été jetés là avant le jugement dernier. La Bible nous parle qu'au jugement dernier, que les morts vont ressusciter, puis que tout le monde qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie vont être jetés dans les temps de feu. Puis le diable, la bête, puis le faux prophète, il était déjà là. Aussitôt que Jésus va apparaître, il va les saisir, il va les jeter dans les temps de feu tout de suite. Le jugement va être instantané quand Jésus va revenir à l'enlèvement. Quand il va venir prendre son autorité sur la terre. La Bible déclare qu'il va apparaître du ciel comme sur une nuée avec puissance et gloire, ses anges vont être avec lui, les saints vont être avec lui, puis il s'en vient où ce qui va détruire l'antéchrist par l'éclat de son avènement puis le feu qui sort de sa bouche, il va anéantir son armée qui était rassemblée à Jérusalem, puis il va le saisir, puis il va le jeter dans les temps de feu tout de suite. Mais le diable va être saisi ses démons et enfermé pour 1000 ans dans un lieu où le diable pourra plus séduire les nations pendant 1000 ans. Mais on n'est pas encore rendu là. On voit-tu Jésus en train de régner sur la terre? Non, c'est pas encore le moment où ce que le diable est captif de sa prison. Une chose qu'on sait, c'est que Jésus a déjà décrété qu'il était déjà jugé. Quand Jésus est mort, il dit « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Il a commencé déjà à prendre une débarque au moment où ce que Jésus est débarqué avec son esprit et son pouvoir, puis qu'il a répandu son onction sur ses 12, sur les 70. Puis là, il marchait dans une autorité, puis il chassait les démons, puis il dit que Satan prenait des débarques comme un éclair, puis il débarquait du ciel. Puis Jésus, dans sa mort sur la croix, il a remporté une victoire que le diable n'a plus de position comme demeure officielle dans le ciel. Ça, c'est une autre étude qu'on va faire un autre jour. On ne peut pas rentrer dedans. J'ai déjà fait l'étude, puis un jour, si Dieu le permet, on en reviendra là-dessus. Tout ça, là, on voit que la victoire contre le diable n'est pas réellement instantanée. Jésus a remporté la victoire en mourant sur la croix, en ressuscitant le troisième jour. Mais on ne voit pas que le diable a disparu puis que tout est accompli. Ça me fait penser à l'histoire de Saül. Saül avait été oint, le roi d'Israël. Il avait été oint pour régner sur Israël. Là, il devait obéir puis marcher dans l'obéissance aux consignes de Dieu. Puis Saül s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Il a commencé à faire des choses qui déplaisaient à Dieu. Fait que là, Dieu a racheté Saül comme étant roi d'Israël, il a retiré son onction, puis il a même eu un esprit méchant qui tourmentait Saül, et Dieu a fait oindre David comme roi. Sauf que David n'a pas pris sa royauté tout de suite, il n'a pas pu prendre la place de roi tout de suite, malgré que l'autre a été rejeté, puis que David avait reçu l'onction. Il n'a pas pu s'installer comme roi à Jérusalem instantanément. Parce que Saül a refusé de laisser la place. Il a fallu que Dieu tonse Saül pour que David puisse prendre sa place. Puis il y a eu un temps où Saül a continué à persister, puis à résister, puis à rester comme roi. Puis ça a amené du trouble, ça. Puis jusqu'au jour où Dieu, finalement, il a tossé Saül, puis là, David est installé comme roi d'Israël. Mais ça nous donnait comme une idée. Comment ça se passe dans le monde invisible? Bien que Jésus a remporté la victoire, on ne voit pas que Satan il est disparu, puis qu'il est vaincu, puis qu'il est déjà dans les temps de feu. Il s'est fait tasser en se faisant jeter dehors du ciel. Il est jeté présentement sur la terre, puis il règne présentement sur la terre, dans les lieux célestes de la terre. Mais c'est comme des débarques qui vont se prendre une par derrière l'autre que Dieu va faire dans des moments précis. Il va avoir un jour où le diable il va être jeté dans les temps de feu. Mais ça, il faut qu'il y ait une histoire qui se déroule, puis il y a encore un rôle à jouer dans ce monde, autant que Dieu veut tirer sa gloire dans tout cela, puis il permet, comme il laisse du temps pour agir. C'est dans le plan de Dieu, Dieu il tire sa gloire de tout cela. Ce qu'on doit comprendre ce matin, parce que je vais m'arrêter là, puis je continuerai la suite dans le prochain message. Jésus est le vainqueur. Jésus a vaincu l'ennemi. Puis ça, on va en voir plus de passages la prochaine fois. De tout ce qui s'est passé quand il est mort, qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a enlevé à Satan, puis qu'est-ce que ça donne comme différence dans la vie de ceux qui sont là. Je peux vous dire aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas encore fait profession de suivre Jésus. Peut-être vous dites, oh, Jésus, c'est le Jesus freak, c'est un freak avec les cheveux longs, puis c'est pas plus d'influence que ça. Jésus n'est pas juste ce qu'on peut voir comme image dans les films de cinéma, puis ce qu'on peut voir comme photo dans certaines églises. Jésus est le créateur de toutes choses, est celui qui est venu sur la terre pour une mission spéciale avec une onction puissante pour délivrer les captifs qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour avoir la victoire sur la terre, pour vaincre le diable, pour juger ce monde, pour ressusciter puis s'asseoir dans les lieux célestes en tant que corps humain ressuscité. Il est le premier être humain ressuscité et assis dans la présence de Dieu, dans une autorité qui est une autorité au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de tout nom qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est des belles choses qu'on va découvrir avec des passages en prochaine étude. Si vous hésitez encore de donner votre vie au Seigneur, je vous encourage à le faire maintenant. Prenez le temps de réaliser la victoire que Jésus a accomplie, sa mort sur la croix, son sang qui était versé, qui nous assure le pardon de nos péchés, et une marche en communion avec l'Esprit-Saint pour finalement finir, vivre éternellement dans la présence de Dieu. Hallelujah.